je voulais voir sur l'angle, la partie haut de la page, le titre c'est David Joab Abner. Il y a aussi dans deux hommes que je vais essayer de vous présenter en rapport avec David. L'un dont David a dit à sa mort, un prince, un grand, est tombé aujourd'hui en Israël. Et l'autre, dont David a dit à son fils Salomon, tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans ce jour des morts. Le premier, Abner, était le chef d'armée de Saül, qui était l'ennemi de David, Saül, au moins pendant une partie de son règne. Et le deuxième, Joab, était son propre chef de l'armée. Et je me pose la question, mais pourquoi ce jugement de David, l'un favorable, l'autre un jugement de condamnation? Et ce qui est drôle, c'est que le jugement favorable, c'est vers son ennemi, et le jugement de condamnation vers son propre chef d'armée, qui s'appelle Joab. Qui était Abner et Joab, et quel était le rapport avec David? D'abord, tous les deux, de leur façon, à un moment ou l'autre, ont assuré que David porte la couronne d'Israël. Et je dis bien de façon parce que ni l'un ni l'autre a institué David comme roi. C'était Dieu. Dieu seul qui l'a voulu et Dieu seul qui l'a fait. Il a institué David comme roi en Israël. Il s'est servi de plusieurs hommes comme Samuel, comme Joab, comme Abner et beaucoup d'autres pour le faire. Et en 2 Samuel chapitre 5 verset 1 et 2, nous lisons: toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, l'Éternel, je souligne bien, l'Éternel t'a dit, tu feras paître mon peuple Israël et tu seras le conducteur d'Israël. À trois reprises, David a été loin comme roi. Je ne sais pas si vous savez ça ou non. La première fois, c'était Samuel qui l'a vint quand il était encore jeune, et pour deux autres occasions par le peuple. Mais pourtant, bien que beaucoup aient travaillé en faveur de David, Abner et Joab compris, Dieu seul l'a établi. Ouais, et pour moi, c'est la première leçon à apprendre, c'est que ce que Dieu dit, Dieu fait. Ce que Dieu dit, Dieu fait. S'il a promis quelque chose, il le fera. Mais qui étaient ces deux hommes? L'un qui a reçu des éloges, l'autre une condamnation. Abner, il était le cousin du roi Saül. Le père était frère. Et Abner était donc de la tribu de Benjamin. Il était aussi, comme j'ai déjà dit, le général en chef de l'armée d'Israël sous le roi Saül. Sa première rencontre avec David date de la victoire du jeune homme sur le géant Goliath. C'était Abner qui même a mené David devant le roi. Saül ne connaissait pas David, il a demandé qui est ce jeune homme. C'est Abner qui l'a présenté. Plus tard, Abner accompagnait Saül dans ses poursuites de David. Et à une occasion, a été reproché par David de ne pas avoir mieux protégé son roi. C'était l'histoire que nous avons déjà vue où David et Shaul entrent en camp pendant que le roi dormait, il prend la lance et la couche d'eau. Et David, à ce moment-là, reproche Abner de ne pas avoir protégé son roi. Bon. Il y a après un petit détail qui dit que Dieu avait fait dormir ses hommes. Donc je ne sais pas s'il aurait pu sauver Saül ou non, parce qu'il était endormi. De toute façon, c'est ce qui s'est passé. À la mort de Saül, Abner a profité de l'hostilité des autres tribus envers celle de Juda pour favoriser la famille qui était, dont il était issu et à laquelle il avait juré fidélité. Et il a pris le fils de Saül, qui s'appelait Ish-Bosheth, et l'a établi roi sur toutes les tribus, sauf celle de Juda, qui avait suivi David. Ele assistiu o seu os projetos para 10 anos, para não poder vir depois do Hebron. Plus tard, lors de la retraite devant les forces de Joab, Azaël, un autre frère de Joab, poursuivait obstinément Abner, et après l'avoir plusieurs fois conjuré de se détourner, Abner, je crois, à grand regret, a dû le tuer afin de sauver sa propre vie. Et avec la mort d'Azaël, David a pas seulement perdu un homme vaillant, parce qu'il est connu comme un des vaillants de David, mais à sa mort a aussi provoqué ce que j'appelle une vendetta de la part de Joab envers Abner. Et encore plus tard, pendant un moment de paix, Joab, par ruse, a tué Abner. Mais entre-temps, Abner s'est fâché contre Ish-Boshet, ce roi, ce fils de Saül. Il a vu, dit-il, que sa loyauté devait aller à David. Il a dit en 2 Samuel, chapitre 3, versets 9 et 10, il s'adresse à Ish-Boshet, que Dieu fasse ceci à Abner et qu'il ajoute encore cela. Mais on ne dit pas ce qu'il ajoute ou ce qu'il va faire, il semble qu'il fait des gestes, peut-être, pour montrer ce qui va arriver s'il n'accomplit pas son vœu. Il dit que Dieu fasse ceci à Abner et qu'il ajoute encore cela. Si je n'agis pas avec David, selon le serment que l'Éternel a fait à David, qu'il établira le trône de David sur Israël et sur tout et sur Juda. Donc, Abner était au courant du fait que David a été choisi par l'Éternel. Et dans ce cas, il porte son appui à David. La Bible nous dit en chapitre 3 de Samuel, verset 11, « Ish-Boshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il craignait. » Il semble qu'Abner était un homme assez puissant, un homme assez connu pour ses capacités de soldat, parce que quand David a reproché pour ne pas avoir protégé son roi, il a dit, est-ce qu'il y a un autre homme comme toi en Israël? Donc c'était un grand soldat. Mais c'est à ce moment-là, comme j'ai dit, qu'à sa façon, qu'Abner a assuré que David porte la couronne de tout Israël. Il est entré en négociation avec David et les anciens du peuple pour amener tout le peuple à David. Et comme signe de ses bonnes intentions, il a rendu à David sa première femme, Michal, qui avait été prise de David après que Saül commençait à la chasser et donner un autre homme. Et donc Michal est revenu à David comme femme. Et c'était tout de suite après que fâché et prétendant qu'Abner n'était qu'un espion, que Joab, la ruse, l'a pris de côté et l'a tué. Et c'est à ce moment-là, à la mort d'Abner, que David a dit, un prince, un grand, est tombé aujourd'hui en Israël. Bon, ça c'est Abner, mais qui était Joab? Voilà pour moi un homme plein de contradictions. Quand j'étudiais sa vie, un moment même formidable, un autre moment c'est un homme horrible. Je vais essayer de vous décrire un peu comment il était, parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés de Joab. Ce nom veut dire l'Éternel est père. L'Éternel est père. Je ne sais pas si on peut dire que Joab a agi selon son nom, comme un père d'Israël. Il était le deuxième de trois fils de la demi-sœur de David, et donc il était neveu de David. La première fois que nous le voyons, c'est pendant la guerre civile qui a suivi la mort du roi Saül, une guerre entre les partisans d'Ish-Boshet et les partisans de David. Joab, comme j'ai dit, était le général en chef de l'armée de David, et il est devenu chef de l'armée comme récompense d'avoir pris la forteresse Jébus, qui appartenait aux Jébusiens. Et cette forteresse, cette ville est devenue plus tard ce qu'on appelle la ville de Jérusalem, appelée aussi la ville de David. Et il semble que Joab avait conduit ses hommes à travers le tunnel, commençant par la source d'Ion qui était tout au fond du vallée du Cédron, à travers ce tunnel jusqu'en haut dans la ville. Et de l'intérieur, il a pris la ville. Et puis il y a un passage que j'ai trouvé qui était un peu intéressant, c'est 1 Chroniques chapitre 11, le verset 8, qui nous dit aussi que Joab redonna vie au reste de la ville. Et cela veut dire qu'après la construction que David a fait faire à Jérusalem, que Joab a vu que la ville soit restaurée. Donc il était même qui était responsable un peu, en partie au moins, pour la construction et la restauration de Jérusalem. Donc que ce soit par vengeance à cause de la mort de son frère Hazael, ou soit par jalousie de sa position comme chef de l'armée, l'assassinat d'Abner par Joab aurait pu provoquer des amertumes entre les tribus et surtout envers David, parce que le fils de Joab était son chef de l'armée. Mais David a agi avec beaucoup de sagesse, et je dirais aussi avec sincérité, en faisant savoir qu'il n'était en aucun cas responsable pour le meurtre d'Abner. Mais qu'est-ce qu'il a fait? David a ordonné des funérailles d'État pour Abner, qui était jusqu'à son ennemi. Et lui-même, il a suivi la civière d'Abner en pleurant, avec les vêtements déchirés, avec la poussière, le sang sur la tête. Et en plus, pour toute une journée, il a refusé de prendre de nourriture, un signe de deuil pour cet homme. Et je vais vous lire un passage sur 2 Samuel, chapitre 3, verset 36-37, si vous voulez lire avec moi. Cela fut remarqué et approuvé de tout le peuple, approuvé comme tout ce qui avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël reconnurent en ce jour-là que ce n'était point par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été mis à mort. Donc le peuple a reconnu que David était innocent. Et par ses actions, David a pu attirer tout le peuple vers lui. Donc même dans sa mort, Abner, dans un sens, a travaillé pour que la royauté soit établie entre les mains de David. Mais aussi, David a maudit Joab. C'est en 2 Samuel, chapitre 3, verset 39, il a dit que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Il me semble qu'à partir de ce moment, il y avait un petit quelque chose entre David et Joab. J'appelle ça un peu de mauvais sang, si on peut dire, entre les deux. Et j'ai mis ici dans les notes une question: comment peut-on avoir confiance entière en quelqu'un que l'on sait coupable de le mettre et ne le regrette pas avec temps? Et c'est un peu le cas ici. Joab est coupable de le mettre, mais David ne peut plus mettre sa confiance entière en cet homme. Et je me suis demandé aussi, mais pourquoi David n'a-t-il pas puni Joab? Avait-il peur de lui? Est-ce que c'est parce qu'il ne se sentait pas assez fort d'un point de vue politique, au moins à ce moment-là, pour agir d'une telle façon? Mais je ne sais pas, sauf que David a dit, et ça c'est très important, je crois, il a dit en 2 Samuel 3, 39, on a déjà vu le verset, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Et c'est peut-être là la clé pourquoi on ne voit pas David agir contre Joab à ce moment. Et quelques temps après, quand Joab a assiégé la ville de Rabba pendant la guerre avec les Ammonites, au lieu de prendre la ville lui-même, vers la fin du siège, Joab a envoyé chercher David pour que la conquête de la ville soit attribuée à David. Et comme je dis, c'est un homme plein de contradictions. À un moment, il tue quelqu'un, maintenant il montre un peu sa loyauté envers David, parce qu'il veut que David reçoive la gloire. Peut-être voulait-il regagner la part de l'histoire, je ne sais pas. Mais dans cette petite histoire, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'était pendant cette guerre avec les Ammonites que David est resté à Jérusalem, à ce moment-là qu'il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Et dans un sens, Joab est devenu complice de David dans le meurtre du mari de Bathsheba, qui s'appelait Uri. Il était complice parce que sous l'ordre du roi, il avait mis Uri en avant pendant une bataille. Et puis il a retiré ses troupes pour que Uri soit frappé, qu'il soit tué. Et il aurait pu s'opposer au roi, mais il a dit non, je ne ferai pas, parce que rappelez-vous aussi que Uri était un des hommes de 30 ans vaillants de David. Donc c'était un homme en qui David avait beaucoup, beaucoup de confiance, mais Joab était complice. Et cela encore lui créait de mauvais sang et de suspicion entre les deux hommes, malgré la loyauté de Joab. Plus tard, à la prise de cette ville Rabba, quand il appelle David pour venir fuir la siège. Et je me demande si ce n'était pas une haine ou une méfiance, une suspicion de Bathsheba qui a poussé Joab vers la fin du règne de David d'appuyer un autre fils à David qui s'appelait Adonijah comme roi, au lieu de Salomon. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas du tout soutenir un homme qui avait un rapport avec cette histoire d'Uri, etc. Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Mais encore, je vois un homme compliqué, parce qu'après Absalom, un autre fils de David, s'est enfui parce qu'il avait tué son demi-frère Amnon. Joab a travaillé pour le retour d'Absalom et pour la réconciliation avec son père. Et parce qu'il savait que David voulait rétablir ses liens avec Absalom. Donc il est allé, il a fait le nécessaire pour que les deux soient réconciliés. Et là, je trouve que Joab était toujours mêlé aux affaires familiales et d'État de David. Mais lorsqu'Absalom s'est révolté contre son père, Joab est resté fidèle à David et a même dirigé une partie des troupes dans la poursuite d'Absalom. Et à la défaite des rebelles, c'était Joab lui-même qui a tué Absalom, le fils du roi. Et là encore, je me demande si David a jamais su que c'était Joab qui avait tué son fils. Je ne trouvais aucun passage qui le disait. Mais parce que rappelez-vous que David avait dit, quand il a envoyé ses troupes, mais allez doucement avec le jeune homme. Il ne voulait pas qu'il soit tué. Et Joab ne prenait pas compte de ce qu'avait dit le roi, et lui-même avait lancé des dards ou des lances pour tuer le jeune homme. De toute façon, après la mort d'Absalom, Joab a dû reprendre sévèrement David et lui montre combien son zèle excessif s'était fait peu de cas de ses chefs et de ses serviteurs qui avaient exposé leur vie pour le roi. J'aimerais encore lire un passage sur 2 Samuel, chapitre 19, versets 2 à 8. Parce qu'on voit encore ici l'espoir que Joab avait avec David, comment il pouvait même reprocher le roi Précisément le roi pour l'action. 2 Samuel 19, 2 à 8. On fit ce rapport à Joab. Voici que le roi pleure et même le deuil sur Absalom. Et la victoire ce jour-là devient un deuil pour tout le peuple. Car ce jour-là, le peuple entendait dire le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, que le peuple confus de s'être enfui dans le combat. Le roi se découvrait le visage. Le roi criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils !» Il pleurait. Joab arriva auprès du roi, à l'intérieur, et dit, « Tu couvres aujourd'hui de honte la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, la vie de tes fils et de tes filles, la vie de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu as de la haine pour ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur qui compte. Et je reconnais aujourd'hui que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour-là, tu trouverais cela normal. Lève-toi donc, sors et parle au cœur du peuple et de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Il sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Donc il parle assez franchement au roi. Le retour à Jérusalem, après la défaite des rebelles, David a remplacé Joab comme chef d'armée par un autre mauvais qui s'appelait Amasa. Alors que je ne sais pas exactement pourquoi David l'a fait, sauf peut-être qu'il n'appréciait pas le fait que Joab lui a repoussé, je ne sais pas. De toute façon, il l'a fait. C'est parce qu'Amasa a pris son temps en maîtrisant la rébellion de l'homme qui s'appelait Sheba, David a demandé à l'autre frère de Joab, Abishai, de prendre la situation en main. Et Joab est allé aussi avec les troupes, à un certain moment, seul avec Amasa, prétendant l'embrasser, il a poignardé, il a tué. Et il a pris encore la direction et le commandement des troupes. Et c'était de cette façon qu'il a conservé, il a repris sa position de chef de l'armée. Et encore une fois, David ne le punissait pas. Mais des années plus tard, on voit encore l'autre homme. On voit deux hommes presque dans Joab. Des années plus tard, vers la fin de son règne, David a voulu faire un dénombrement d'Israël. Et Joab, sachant que c'était contre la loi de Dieu, s'opposait au roi. La Bible nous dit cependant, mais la parole du roi l'emporta sur Joab. Donc Joab a fait le dénombrement. Mais la Bible nous dit encore, c'est en 1 Chronique, chapitre 21, verset 6, il ne dénomba parmi eux ni Lévi, ni Benjamin, car Joab était horrifié par l'ordre du roi. Et chaque fois qu'on voit ce mot horrifié dans l'Ancien Testament, c'est toujours dans un contexte d'idolâtrie. On est horrifié par ces idoles ou les pratiques idolâtres. Et dans ce cas, Joab est horrifié par ce que David demande, parce que dénombrer le peuple montrait justement un manque de confiance en Dieu, parce qu'il voulait savoir combien de soldats il avait en Israël. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il était horrifié par ça. Donc on voit un homme qui avait un respect quand même pour la voix de Dieu. Donc comme je dis, Joab a attribué Adonijah, un autre fils du roi, comme à la fin du règne de David. Lorsque Salomon a été proclamé roi par son propre père et par les prophètes et les prêtres, Joab l'a abandonné à Adonijah. Et c'est peu après que David, sur son lit de mort, a conseillé à Salomon de ne pas laisser Joab impuni pour les morts d'Abner et d'Amasa, ces deux hommes. Et selon, je vais envoyer un passage en 1 Roi, chapitre 2, versets 5 et 6. C'est David qui parle. 1 Roi 2, 5 et 6. Tu sais bien ce qui m'a fait Joab, fils de Testruya, ce qu'il a fait à deux chefs des armées, à Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la sandale qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre un peu dans le séjour de mort. Et puis, selon les ordres de Salomon, Joab a été tué aux côtés de l'autel du tabernacle. C'est le chapitre 2, verset 31 à 34. Écoutez. Le roi lui dit, « Fais comme il a dit, frappe-le, et tu l'enseigneras. Tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a répandu sans cause. » Et là, Salomon avait déjà envoyé son soldat tuer Joab. Mais Joab s'est enfui, il a pris les cornes de l'autel et de cette façon-là, il ne pouvait pas le tuer parce que ça serait désacré l'autel. Mais Joab a dit, si vous allez le tuer, tu le fais ici. Mais le soldat a retourné à Salomon et a dit, mais il est vers l'autel. C'est à ce moment-là que le roi lui dit, fais comme il a dit. Et frappe-le. Verset 32. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sache. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Yeter, chef de l'armée de Juda. Le sang retournera sur la tête de Joab et sur la tête de sa descendance pour toujours, mais il y aura paix. Pour toujours, pour par l'Éternel, pour David, pour sa descendance, pour sa maison et pour son trône. Et pour le verset 34, Benaïra, fils de Yehoshaphat, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enseveli dans sa maison au désert. Des contrastes frappantes entre ces deux hommes. Déjà, on voit peut-être la sorte de personne que nous devons être en comparant notre vie avec ces deux personnes. Du côté d'Abner, même qu'il soit l'ennemi de David pendant un temps, il s'était un homme loyal et fidèle. Un homme loyal et fidèle. Joab, par contre, était un homme partagé. Et à des moments, il était un héros, loyal et fidèle, conseillant au roi le pardon, la réconciliation. Et dans le cas d'un dénouement d'Israël, il a conseillé l'obéissance à la loi, voilà son côté spirituel. Mais à d'autres moments, nous voyons un homme infidèle, un traître même, un homme aux mains sanglantes dans les deux cas d'Abner et d'Amasa. Et aussi, il était complice de David dans le meurtre d'Uri. Donc, au moins trois personnes qui, à cause de lui, sont morts. Trois hommes innocents, trois vaillants hommes, des hommes de bien. Bon, en voyant Abner, David a pleuré Abner. Et tout Israël a pleuré la mort d'Abner. David le considérait comme un prince, un grand homme. Et Salomon a dit de lui qu'il était plus juste et meilleur que Joab. Pour Joab, bien que David n'a rien fait lui-même, le il a conseillé à Salomon son exécution. Et puis, il y a ce dernier mot, un dernier jugement, je crois, sur Joab. Il fut enseveli dans sa maison au désert. Au désert. L'un a reçu le funérailles des pas, l'autre l'obscurité, l'oubli. Mais je vois deux choses importantes que nous pouvons tirer de cette histoire, de ces deux hommes. Premièrement, tôt ou tard, la justice sera faite. Tôt ou tard, la justice sera faite. Et Dieu veille à cela, c'est Dieu qui s'occupe de cela. Dans les deux cas, Daniel et Joab, l'un a eu des éloges, l'autre le respect, et l'autre la condamnation, la punition, et l'oubli. Et j'ai cherché plusieurs proverbes, je les ai marqués sur votre feuille là, mais comme le proverbe 12, le juste sera élevé, et l'injuste, le méchant, sera abaissé. Même dans la mort, quand Agnès est mort, il a été élevé, les éloges, le respect. Et dans le cas de Joab, ce grand homme, ce soldat, ce héros, il a été même à ce moment-là condamné, mis dans l'oubli. Mais deuxièmement, bien que pas toujours sans faute, David ne s'est pas vengé lui-même. Il a laissé la vengeance à Dieu. Bien sûr, il avait le droit de punir Joab et peut-être devant nous, il aurait dû le faire. De toute façon, Joab a eu sa punition par la main de l'homme que Dieu avait établi à la place de David, l'homme sage, comme nous dit la Bible, c'est-à-dire par la main de Salomon. Et Salomon a accompli la justice de Dieu. Et David l'a même conseillé d'agir selon sa sagesse. On voit la sagesse de Salomon là. Et Salomon a fait. Joab fut tué à cause de ses crimes. La vengeance de l'Éternel fut accomplie. Bon, je vais terminer avec une dernière phrase, c'est tout. Mais je veux que nous mettions toujours notre confiance dans la justice de Dieu qui s'accomplira selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. De chanter numéro 88. Numéro 88.